parole de Dieu. Combien cette parole est importante. Si vous voulez bien, je vais d'abord l'ouvrir dans Marc au chapitre 4. Ouvrons ensemble la parole de Dieu, Marc chapitre 4. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il est important de se nourrir de la parole de Dieu. La série sur l'évangélisation, sur l'imagination, pardon, autant que je le sache, est terminée. Est-ce que vous avez apprécié ces messages-là ? Et il faut les écouter, les réécouter. Alors, vous allez dire, mais jusqu'à quand doit-on écouter un message ? Bien, jusqu'à ce que vous le pratiquiez naturellement. Jusqu'à ce que l'on ait tellement renouvelé nos pensées que c'est naturel de penser conformément à la parole de Dieu dans tel ou tel domaine. Mais franchement, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une des séries qui est vraiment, comporte un gros élément déclencheur concernant notre destinée. L'imagination, encore une fois, il ne s'agit pas de parler de ce que le New Age fait ou la méditation transcendantale, mais ces choses n'existent que parce que le vrai existe, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu en activant notre imagination. Vous avez trouvé Marc au chapitre 4, ici. Jésus va nous donner des vérités à travers une parabole. Alors cette parabole, vous allez la retrouver dans l'autre évangile, Matthieu chapitre 13, et dans Luc également. Mais la parabole, le Seigneur les a données afin que tout le monde ne la comprenne pas, mais que ceux qui ont faim et soif, eux la comprennent. Alors ça paraît assez paradoxal, mais le Seigneur ne distribue pas ses perles à ceux qui les piétineraient. Donc une parabole, Jésus prend des éléments de la vie courante et il s'en sert pour révéler des vérités morales ou spirituelles. Donc notamment dans cette parabole, alors la parabole est appelée la parabole du semeur, mais à vrai dire c'est plutôt la parabole des quatre terres ou des quatre sortes de terrains. Et nous allons voir ce que cela représente. Il y a des vérités magnifiques qui s'en dégagent. À partir du verset 13 dans Marc au chapitre 4, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, et à vrai dire, il présente la même chose avec des mots différents dans les versets qui précèdent, mais je vous laisse le soin de les lire à la maison. Il dit, comment comprendrez-vous donc toutes les autres paraboles, c'est-à-dire les paraboles qui vont suivre ? Le semeur sème la parole. Alors, qui est le semeur ? Eh bien, le semeur, c'est celui qui va annoncer la parole. Bien sûr, c'est Jésus, mais pas que. Le semeur, c'est également toute personne qui va prêcher la parole de Dieu. Et puis, c'est vous également, quand vous annoncez la parole de Dieu. Celui qui sème la parole, la semence, est la parole de Dieu. D'accord ? Donc, ceci étant entendu, on continue verset 15. « Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de semence, de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Dès que survient la tribulation et la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la parole dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Il leur dit encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas sur le chandelier ? Alors, qu'est-ce que cette lampe ? Je vais vous résumer. Cette lampe, c'est le témoignage. Est-ce que nous cachons notre témoignage ? Eh bien, la réponse est non, on ne le met pas sous un boisseau, on va laisser le témoignage de ce que Dieu a fait en nous être vu, lu et entendu par notre entourage, afin que Jésus soit connu. Mais il est évident que nous aurons un témoignage à donner à condition que la parole ait pu porter du fruit en nous. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. On continue. Il est dit ensuite, verset donc 22, hein, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, ni de couvert qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors ça, c'est la clé. La raison pour laquelle la parabole, les versets que nous avons lus sur le semeur qui sème la parole, qui va tomber dans quatre terres différentes, c'est-à-dire dans quatre cœurs qui ont des dispositions différentes, la raison pour laquelle cette parabole nous est donnée, eh bien, est dans les versets que je vais lire là maintenant. Il est dit ici, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez. Dans Matthieu, il est dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Ce n'est pas simplement le contenu. Bien sûr qu'il vaut mieux s'assurer que ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu et que ça n'est pas la tradition, que ça n'est pas juste l'opinion d'un être humain. Il est dit, bien sûr, nous devons nous assurer que ce à quoi nous soumettons notre oreille, c'est-à-dire notre cœur, eh bien, c'est la parole de Dieu, mais c'est encore plus que cela. La Bible dit, quand nous entendons la parole de Dieu, il est dit, faites attention à la manière. Et nous allons voir les manières d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire si la parole de Dieu va porter du fruit dans notre vie ou pas, si nous avons un témoignage à faire briller ou pas. Et il est dit, on continue, on vous mesurera avec la manière, avec la mesure avec laquelle vous mesurez. Et on y ajoutera pour vous. Et la clé, le verset 25 dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et alors là, très souvent, on a sorti ce verset hors du contexte. Et l'idée, c'est, eh bien, si tu as quelque chose, Dieu ajoute, et si tu n'as pas, eh bien, il va te le retirer. Il va te le retirer par la maladie, il va te le retirer par la pauvreté, il va te le retirer par des problèmes, etc. Ma question est, qui a interprété le texte comme cela? Si on comprend que ce texte suit la parabole des quatre dispositions de cœur, des quatre terres, eh bien, cela veut dire que ça a à voir avec les dispositions de cœur. Quel est le verbe que l'on a entendu encore et encore et encore et encore? C'est le verbe entendre. Donc maintenant, en comprenant qu'il s'agit de la qualité d'écoute, eh bien reprenons ce verset 25, et on donnera à celui qui a entendu, prenez garde à ce que vous entendez, prenez garde à la manière dont vous entendez. Et là, c'est « on donnera à celui qui a ». Et ici, les érudits en grec sont tous d'accord pour dire qu'il est question de continuer à entendre. Celui qui a entendu et qui continue à entendre et qui continue à entendre et qui continue à entendre et qui continue à entendre. Mais à celui qui n'a pas quoi? Qui n'a pas continué à entendre? Ah! À celui qui a cessé d'entendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, on ôtera même ce qu'il a entendu. D'abord, quand il est dit « on », ne mettez pas forcément Dieu. Avant de dire « on ôtera », en général, quand Dieu dit quelque chose, il ne dit pas « on ». Il ne nous laisse pas dans le vague. En revanche, on va voir qui est celui qui peut ôter ce que nous avons reçu quand nous avons cessé d'entendre. Et la parabole va nous l'expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu n'est pas celui qui ôte, Dieu n'est pas celui qui prend, Dieu n'est pas celui qui va retirer quelque chose de ta vie. Dieu ne va jamais te forcer à lui donner quelque chose. Dieu n'est pas comme cela. Penser que Dieu est ainsi, c'est insulter sa nature. Parce que d'abord, Dieu n'a besoin de rien. Il est autosuffisant. Dieu n'exige rien de nous, nous ne sommes pas des robots. Il veut collaborer avec nous. Et c'est pour cela qu'il veut que notre cœur, eh bien, nous nous arrangions pour avoir une bonne attitude. Nous ayons une bonne disposition de cœur dans notre relation avec Dieu. Maintenant, à la lumière de ce que je viens de dire, donc il est question de quoi ? D'entendre et de continuer à entendre 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 au risque de perdre ce que nous aurions reçu. Alors, reprenons le verset 14. Le semeur sème la parole. Et ensuite, il va être question de quatre dispositions de cœur. Et ces quatre dispositions de cœur vont déterminer la qualité de vie de la personne. Parce que c'est de cela qu'il est question. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Oui, nous venons à l'église parce que nous voulons affirmer notre foi chrétienne, n'est-ce pas? Dans ce silence religieux, D'accord. Alors, nous voulons affirmer notre foi chrétienne. Et puis ensuite, nous voulons dire, nous commençons le premier jour de la semaine, selon le calendrier de Dieu, c'est le dimanche. Nous voulons que ce premier jour de la semaine, nous le mettions à part. Et c'est une manière de dire, Seigneur, dans tous mes choix, dans mes pensées, dans mes décisions, eh bien, je vais te mettre en premier. Cela veut dire que je vais prendre le soin d'aller écouter la parole de Dieu afin de savoir quels sont les choix que j'ai à faire. Pas la tradition des hommes, pas la philosophie, non, la pure parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, eh bien, elle produit du fruit. La parole de Dieu va impacter ta vie. Si la parole de Dieu n'impacte pas ta vie par la sagesse, par la guérison, par ce qui va devenir la santé, par l'intelligence, par certains, par exemple, ils arrivent à Christ, ils ne savent pas prendre de décision. Ils retardent, ils retardent, ils retardent, ils retardent, ils disent j'hésite. C'est bien d'hésiter un peu, mais à un moment, il faut trancher. Eh bien, la parole de Dieu va nous donner la force de trancher, va nous donner de la clairvoyance, va nous donner du discernement, va nous donner la patience. La parole de Dieu va nous montrer comment maintenir le niveau de notre joie quand les choses ne vont pas bien. Donc, ce que nous comprenons de la parole de Dieu va avoir un impact direct dans notre vie. Vous imaginez que celui qui entend la parole de Dieu et qui entend et qui entend et qui entend et qui continue d'entendre, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser sur à quel point sa vie va-t-elle être impactée. Oui, celui-là aura un témoignage à faire briller devant les hommes. Et il ne faudra pas qu'il le cache. Donc, prenons cette première terre. Il est dit verset 15. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendu. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan arrive et enlève. Apparemment, Satan vient à l'église. C'est ce qu'il est dit, que quand la parole de Dieu est annoncée quelque part, eh bien, il se présente. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher à enlever quoi ? Cette semence qui peut impacter ta vie. C'est pas après toi spécialement qu'il en a, c'est le fait que il ne veut pas que tu reçoives la parole de Dieu parce que lui connaît la puissance de la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Immédiatement, il va l'enlever. J'ai juste une question à me poser. Comment se fait-il qu'il puisse l'enlever aussi facilement? Parce que c'est quand même ça, il ne peut pas tout faire. Donc s'il l'enlève, c'est qu'il a les moyens de l'enlever. Ben, c'est très simple, la Bible nous dit que cette parole-là, est tombé le long du chemin. Cela veut dire que cette parole n'a pas eu le temps de pénétrer le cœur de la personne. Peut-être que cette personne a reçu la parole de Dieu juste au niveau intellectuel. C'est superficiel, c'est intellectuel. Or, je viens voir quelle est cette nouvelle que les chrétiens ont à dispenser. Juste de la curiosité. Ou alors, la parole de Dieu est tombée le long du chemin parce que les gens étaient ailleurs pendant qu'elle était prêchée. Et au lieu que cette parole tombe dans le cœur, elle est tombée à côté. C'est peut-être quelqu'un qui arrive à l'église, qui écoute la parole et... Puis pendant ce temps, la personne est en train de penser que... Ah tiens, il faut que j'aille chercher du lait. Il faut que je passe dans tel magasin, il sera ouvert après... La parole de Dieu, elle ne pénètre pas dans le cœur, mes amis. Et il y a une raison. Il faut savoir, Satan ne peut pas tout faire. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu en étant ailleurs, encore une fois, étant assumé que c'est la parole de Dieu et pas l'opinion des hommes. La Bible nous dit que Satan, immédiatement, va enlever la parole. Et il est évident que cette parole-là, eh bien, c'est comme si elle n'avait servi à rien du tout. C'est comme si cette personne n'avait jamais entendu la parole de Dieu. Mais il faut savoir aussi que le cœur de cette personne-là, selon les Écritures, est un cœur qui est dur. C'est ce qu'il nous est dit. C'est ce qu'il nous est dit. La parole de Dieu, dans ces cas-là, tombe dans un cœur qui est endurci. Le deuxième terrain est un terrain qui est différent. Il nous est dit, verset 16, « Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent. » Ah, il y a encore quelqu'un qui va entendre la parole. D'accord. Mais celui-là a entendu plus que le précédent. Il a reçu la parole dans des endroits pierreux. Ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment, dès que survient la tribulation, la persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc ici, ce sont des gens qui ont entendu davantage. Et cette fois-ci, ils ont reçu la parole de Dieu. Et comme ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont trouvé que c'était une bonne nouvelle et ils sont là. Oh pasteur, mais merci pour ce message, c'est extraordinaire. Franchement, alors j'ai jamais entendu ça, c'était magnifique, c'est extraordinaire. Mais la Bible nous dit que ce sont des gens qui n'ont pas continué à entendre la parole. Donc il y a peu de racines dans le cœur de ces personnes. La semence n'a pas continué à produire, elle n'a pas eu le temps de s'installer, elle n'a pas eu le temps de changer la mentalité de cette personne. Et dès qu'il survient un problème, une épreuve, une catastrophe, eh bien, puisque la parole n'est pas suffisamment ancrée parce qu'ils n'ont pas continué à entendre et à entendre et à entendre, eh bien, ils capitulent devant les circonstances. Donc ce sont des personnes qui sont émotionnellement fragiles et ce sont des personnes qui se laissent influencer et impressionner par ce que leur œil voit. Alors vous avez une catégorie de chrétiens qui va dire « Non, t'inquiète pas, l'économie est ce qu'elle est, mais tu sais, Dieu est celui qui pourvoit. » Ils ont une telle assurance dans le cœur. Et vous avez d'autres chrétiens qui ont peut-être le même temps dans le Seigneur, qui ont entendu les mêmes messages, mais eux, ils sont catastrophés. Ils doutent facilement, ils sont émotionnellement instables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé d'entendre. Puis, il y a une troisième catégorie de terrain. Il est dit, d'autres ont reçu la parole parmi les épines, ce sont ceux qui entendent. Donc, effectivement, ils entendent. Donc, la question, c'est que avec quelles oreilles ? Les premiers ont entendu avec les oreilles naturelles et c'est passé au-dessus. Ils ont un cœur qui est endurci. La parole n'a pas pu pénétrer en eux. Tout est au niveau de la chair. Deuxième terrain, eux ont continué d'entendre la parole et ils l'ont même reçue. Et ils l'ont reçue avec joie. Mais parce qu'ils ont cessé d'entendre, la parole n'est pas profondément enracinée dans leur cœur. Et dès que survient une circonstance qui est difficile, ils se révoltent, ils passent leur temps à dire qu'ils ne comprennent pas, ils sont émotionnellement instables et ils laissent aller leur marche avec le Seigneur. Bien sûr qu'ils vont au ciel, ils sont sauvés, ils vont aller au ciel, mais leur vie chrétienne, eh bien, ils n'ont aucun témoignage à faire briller. D'accord ? Et ici, il est question de cette quatrième terre. Quatrième terre, mais la Bible nous dit qu'elle contient des épines. C'est-à-dire que ces auditeurs vont entendre la parole de Dieu. Cette fois-ci, ils ont entendu plus que les deux autres personnes. Ils ont été un petit peu plus sous l'influence de la parole de Dieu. Mais, quelqu'un dit mais. Mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors ici, cette troisième catégorie de disposition de cœur, cette qualité de terre, tu comprends que la parole de Dieu, eh bien, c'est dans la terre qu'elle est semée. La parole de Dieu est faite pour aller dans le cœur humain. Mais il ne s'agit pas de... La qualité de la semence est incorruptible, nous disent les Écritures. Donc la qualité de la semence n'est pas à remettre en question. En revanche, ce qu'il faut vérifier, c'est quel est le respect que j'attribue à cette parole. Quelle est l'intensité de mon désir de recevoir cette parole qui va changer ma vie. À quel point est-ce que je fais attention à cette parole? Parce que la Bible nous dit clairement, d'après ces versets, que si je prête très peu d'attention, si cette parole a peu de poids, si je la traite comme le Nice Matin, ou comme n'importe quel journal local ou journal télévisé, eh bien, ma vie va rester la même. C'est-à-dire que vous prenez des chrétiens qui ont 30 ans de nouvelle naissance et ça ne se voit pas. Ils ont toujours le même vocabulaire, ils ont toujours la même incrédulité, ils sont toujours aussi impressionnés par ce qui se passe à l'extérieur, ils ne savent pas entendre la voix de Dieu. Pas parce qu'on ne leur a pas enseigné, pas parce qu'ils n'ont jamais été exposés à comment entendre la voix de Dieu, mais parce qu'ils ont laissé la parole prendre le dessus, ou bien sur leur intellect, ou alors ils ont cessé de l'entendre. Ici, quelle est cette catégorie de chrétiens? Eh bien, ce sont des chrétiens qui ont entendu encore plus la parole de Dieu, au point que ces chrétiens-là ont commencé à prospérer. Ils ont commencé à voir du fruit et ils ont commencé à comprendre qu'ils sont la justice de Dieu. Ils ont commencé à comprendre que oui, Dieu pourvoit à leurs besoins. Et on a remarqué que quand Dieu pourvoit à nos besoins, eh bien, c'est pas à moitié. C'est vrai ou pas? Dieu pourvoit à nos besoins et quand l'exaucement de prière tombe, waouh, Seigneur, j'aurais jamais pu faire cela. C'est magnifique, Seigneur. Et plus notre foi grandit, et plus on voit que la provision est abondante, au point qu'on peut être une bénédiction pour les autres, sauf que ceux-ci, qui n'ont pas continué à entendre, et à entendre, et à entendre, et à entendre la parole de Dieu, ont encore les yeux sur leur nombril. Ils sont concernés par leurs biens matériels. Alors la deuxième catégorie est émotionnellement instable. Mais eux, parce qu'ils n'ont pas continué à entendre la parole de Dieu, eh bien, ils se font des soucis pour les euros. Est-ce que le taux est bon? Est-ce que la devise est à la hauteur du pesos? Comment vais-je faire pour payer l'université de mes enfants? Oh, ce pneu de la voiture que je dois changer! Et ils passent leur temps, il faut que je l'ai meilleur prix, c'est bien de chercher les meilleurs prix, mais à un moment, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mais ces gens n'ont pas continué à entendre et ils ont goûté à la prospérité. Ils ont entendu suffisamment pour voir Dieu agir dans leur vie. Et puis quand la prospérité vient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils cessent d'entendre pour la bonne raison, qu'en général, ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils ont la promotion qu'ils attendaient. Leur enfant qui était malade a reçu sa guérison. Ils ont le nouvel appartement pour lequel ils croyaient, dans le quartier qu'ils voulaient. Ils ont de la bonne nourriture à manger. Et ça va tellement bien, ils envisagent d'acheter un yacht. Et mes amis, si vous voulez un yacht, achetez vos yachts. Il n'y a aucun problème avec cela. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Dieu est celui qui a donné l'intelligence pour que des beaux bateaux soient achetés. Si vous voulez un yacht, achetez votre yacht. Seulement, ne l'utilisez pas au moment où vous devriez entendre la parole de Dieu. Parce que celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. Et on vient de voir que celui qui ôte, ça n'est pas Dieu qui va te prendre ton yacht. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi qui va te prendre ton yacht. C'est notre ennemi qui nous prend notre santé. C'est notre ennemi qui nous prend peut-être des contrats pour ceux qui sont dans les affaires. C'est notre ennemi qui enlève, c'est lui qui égorge, c'est lui qui vole, c'est lui qui tue. Et ce qui nous fait dire, comme le dit Jacques, que oui, il est celui qui rôde, mais tu n'es pas obligé de le laisser t'enlever ce que Dieu t'a donné, ce que tu as compris de la parole de Dieu qui t'appartenait. Est-ce que tu comprends cela? Combien de fois je n'ai pas vu cela? Tout d'un coup, un chrétien a une belle voiture et ça y est, paf, on ne le voit plus, il part en pique-nique. Tous les dimanches, il part en pique-nique. Ou alors, avant, il ne pouvait jamais inviter quelqu'un à la maison. Et tout d'un coup, il se trouve tous les dimanches midi, parce qu'il n'y a pas d'autres jours de la semaine, il va inviter. Écoutez, mes amis, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, eh bien, pourquoi pas? Parce que quelquefois, ce n'est pas possible. Et pourquoi pas? Personne ne perd son salut parce qu'il ne vient pas un dimanche au culte. Est-ce que nous sommes d'accord? La question n'est pas de venir, de ne pas venir au culte. La question est d'entendre, de continuer à entendre et de continuer à entendre et de continuer à entendre la parole de Dieu. À un moment, si tu dis non à ta famille en disant non, je ne vais pas, on ne va pas se voir dimanche, ou alors on va déjeuner à 14h de l'après-midi. Où est le problème? Dis non, c'est à midi. Écoute, non, pour une fois, ça va être à 14h. Si de temps en temps c'est à midi, il n'y a aucun problème. Mais la clé est, rappelle-toi qu'il y en a un qui veut te voler. C'est aussi simple que cela. Et tout ce qu'il peut faire pour te voler la parole qui va te dire qui tu es en Christ, qui va te dire que le Saint-Esprit est toujours avec toi, la parole qui va t'enseigner à suivre le guide, celui qui va te permettre d'échapper à des pièges qu'il t'a tendus, que le diable t'a tendus. Celui qui va te guider vers la parole de guérison, ce Saint-Esprit. La parole nous dit toutes ces choses. La parole nous montre notre héritage, l'héritage que Dieu nous a réservé. Et que se passe-t-il? Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a une quatrième qualité de terre. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. C'est qui? C'est qui d'autre? Qui sont ces autres? C'est nous? Non, je suis la seule ou... Qui fait partie de ces autres? Amen! C'est nous! En tout cas, on choisit, non? On choisit d'être parmi ces autres. Alors regardez, il est dit, ils ont reçu la semence. Donc, ils n'ont pas traité à la légère. Ce sont ceux qui ont entendu... Et l'idée, en grec, c'est ceux qui ont entendu, qui ont continué d'entendre. Pas simplement entendu une fois, continuer. Et dimanche après dimanche, et groupe de connexion après groupe de connexion, et dévotion quotidienne après dévotion quotidienne. Ils intègrent la parole de Dieu. Il est dit, ils l'acceptent et ils portent du fruit. Un en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Alors, ici, on voit des gens qui ont un témoignage à donner, qui ont quelque chose à raconter à leur entourage. Oh, si vous saviez ce que Dieu a fait dans ma vie. Et les gens viennent vous voir et ils voient ce qui se passe à la maison. Ils disent, waouh, dis donc, regarde ce que tu as. Et tu dis, non, attends. Ça, c'est le résultat de la parole de Dieu dans ma vie. Vous remarquerez une chose, c'est que ce quatrième groupe de personnes, ceux qui ont choisi de bien disposer leur cœur, ce sont des personnes qui vivent sur la même planète que le numéro 3 et le numéro 2. Ce sont des gens qui vivent dans les mêmes circonstances, dans la même économie, avec les mêmes virus qu'on nous promet tous les hivers, avec les mêmes catastrophes. Mais eux ont la parole de Dieu qui est ancrée en eux. Et ils sont solides et en dépit des circonstances, ils voient leur vie qui est rendue conforme à la vie de Christ quand il était sur terre. Vous savez, le troisième terrain, à vrai dire, ce sont ceux qui n'arrivent pas à passer le test de la prospérité. Quelquefois, les gens disent « Oh là là, c'est Dieu qui nous tente ». Non, l'épître de Jacques au chapitre 1 nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne te tentera jamais par la maladie, Dieu ne te tentera jamais par l'épreuve qui est mauvaise. En revanche, le vrai test pour Dieu est « Où es-tu et quelles sont tes priorités ?» Quand tu commences, quand ta vie commence à s'améliorer, où es-tu? Est-ce qu'il te trouve encore? Est-ce qu'il peut encore compter sur toi? Parce que la différence entre la quatrième disposition de cœur et les autres, c'est que ceux qui ont un cœur qui est bien disposé, qui ont entendu la parole de Dieu, qui l'ont reçu, qui l'ont laissé porter du fruit, ce sont des gens qui quoi? Eh bien, qui sont arrivés au stade où ils servent les autres. Vous avez remarqué qu'un pommier ne porte jamais des pommes pour lui-même. Un pommier va porter des pommes pour les autres. Si vraiment la parole de Dieu agit en toi, si tu as continué à entendre et entendre et entendre et entendre et entendre la parole de Dieu, à un moment, ça va se voir. Pourquoi ? Ben parce que tu seras en train de servir les autres. Tu seras en train de chercher comment tu peux aider les autres à expérimenter la plénitude de la vie de Christ sur terre. Alors, vous comprenez que la qualité de notre vie ne dépend pas de notre pays, ne dépend pas de du contexte dans lequel nous avons été élevés, ne dépend pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes vainqueurs sur toutes ces choses. Mais ne dépend pas de Dieu et ne dépend même pas du diable. La qualité de notre vie ne dépend que de ce que nous faisons de la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un autre passage dans Luc, chapitre 14. Oh, gloire à Dieu! Vous avez trouvé ? Verset 16, donc Jésus répond à quelqu'un qui a dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et Jésus lui dit « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est prêt ». On peut imaginer que ce repas était grandiose. Je sais pas, mais moi, c'est énorme ce que je vois sur la table, quoi. Ah, c'est pas du hamburger, hein. C'est pas. En général, un grand repas, tu le fais pas au moment où les gens arrivent chez toi. Tu as préparé. Il y a plein de choses. Ne serait-ce que tu as pensé à l'ordre des plats. Tu as pensé à ce qui allait être sur la table, non? Puis tu, en général, un grand repas, ça ne se fait pas au micro-ondes. J'aimerais que ceux qui aiment cuisiner disent oui, amen à cela. Ok. C'est pas au micro-ondes que ça se prépare un bon repas. Et l'élément principal d'un bon repas, c'est l'amour qu'on y met. C'est le désir de le partager. Un bon repas, ça ne se mange pas seul, mes amis. Bon, de temps en temps, hein, parce que quelquefois les gens me disent ah, c'est, moi je suis célibataire, je mange seule, donc je ne fais pas de grande cuisine pour moi. Ben, tu as tort, parce que la vie est belle et c'est très agréable de bien manger. Et de temps en temps, fais-toi plaisir, demande à quelqu'un de partager cette bonne choucroute avec toi, par exemple. Donc on peut imaginer que cet homme-là, eh bien, il a pensé au nombre d'invités qu'il allait avoir. Il a pensé à ce qui était sur cette table. Et tu dis, alors, qu'est-ce qui était sur cette table? On est au Moyen-Orient, il y avait du couscous. Dieu, si bon. Non, tu sais ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que l'Éternel a préparé pour nous une table et l'a mise entre nous et nos ennemis. Qu'est-ce que tu as sur cette table? Tu as le pardon. Tu as la guérison. Tu as la sagesse. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il faut pour vaincre cet ennemi qui cherche à te dévorer tout cru. Et le Seigneur a préparé cette belle table. La Bible nous dit que nous n'aurons jamais de besoin qui arrive, de besoin qui arrive au niveau de la provision. Nous avons toujours une provision qui est supérieure, abondante, qui est bien au-dessus du besoin que nous avons. N'est-ce pas? Donc, notre Dieu n'est pas chiche. Vous imaginez cette table qui est abondante. En général, quand il y a une table pareille, il y a une atmosphère festive. Même si les gens arrivent et ils sont gronchons, dès qu'ils goûtent à ces mets, paf, tout de suite, il y a un sourire qui se présente. On continue? Alors, vous êtes avec moi à ce banquet là ou vous n'y êtes pas? D'accord. À l'heure du repas, il envoya son serviteur, le serviteur étant le Saint-Esprit, qui va inviter les gens à la table que Jésus, le Maître, a préparée. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt !» Les invités ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Question, quel est l'imbécile qui achèterait un champ sans aller le voir? Hein? Franchement. Ou alors c'est quelqu'un qui cherche à juste dépenser son argent. Mais si franchement... Il a acheté un champ et c'est bien parce que ça parle du fait qu'il peut le faire. C'est sa prospérité. Juste une question, pourquoi il choisit ce moment-là puisqu'il est propriétaire? Il va même pas faire la transaction, il est déjà propriétaire. Pourquoi choisit-il ce moment pour refuser l'invitation du maître? Ensuite, il en a un autre qui dit, « Eh bien, j'ai acheté 5 paires de bœufs ou de bœufs, comme vous voulez, ça dépend les régions d'où vous êtes, on dit bœuf ou bœuf. Et je vais les essayer. Ben, » là encore une fois, pourquoi choisit-il ce moment? Et normalement, si tu as acheté 5 paires de bœufs, normalement, tu dois avoir déjà vu au moment de l'achat si c'était des animaux qui étaient malades ou pas. Maintenant, quand il est question de 5 paires de bœufs, cela parle de prospérité parce que dans l'Ancien Testament, on voit que quand les gens étaient dans la nécessité, ils apportaient des sacrifices, ça pouvait être des pigeons. Mais quand ils étaient vraiment prospères, eh bien, ils amenaient des animaux qui étaient beaucoup plus gros, qui étaient beaucoup plus chers. Et puis, il y a une valeur marchande, parce que c'est quand même pour un commerce. Mais lui aussi, il a prospéré. Et a oublié celui qui lui a donné cette prospérité. Et il dit, tiens-moi, je te prie pour excuser. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Eh oui, combien de fois ça n'arrive pas? Les gens se marient et vous ne les voyez plus à l'église. Ils cessent d'entendre la parole de Dieu parce qu'ils ont eu ce que leur cœur désire. Ben c'est bien! Mais normalement, tu t'es marié avec quelqu'un dans le Seigneur, viens avec ce conjoint. viens. Et il est dit, donc le serviteur de retour apporta ces choses au maître. Je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît, Billy. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Et alors le maître de maison, merci, irrité, dit à son serviteur. Vous savez qu'à chaque fois que les portes de l'église s'ouvrent, à chaque fois que vous avez l'occasion, que ce soit une conférence ou autre, d'entendre la parole de Dieu, c'est le maître qui, par ses serviteurs, nous envoie une invitation pour que nous entendions la parole. Pourquoi ? Parce qu'il a en vue la destinée qu'il a pour nous. Et il sait qu'à moins que la parole de Dieu n'ait produit un certain fruit dans notre vie, on ne pourra pas participer à l'héritage qu'il nous a acquis à la croix. Dieu, l'autre fois je pensais à ça, le Père est exactement comme... Ça vous est déjà arrivé de préparer un cadeau pour quelqu'un, mais franchement vous avez mis tout votre cœur. Vous avez mis une somme d'argent, peut-être ça n'est pas tellement le montant, mais en tout cas c'est beaucoup plus que ce que vous n'auriez pu raisonnablement réaliser comme achat. Et puis ensuite, vous êtes certain, vous avez réfléchi, vous dites, oh, ce cadeau, je sais qu'il l'attendait, je sais qu'il le voulait. Et vous avez dégoté le cadeau. Vous avez été chercher sur Internet, vous avez trouvé exactement, vous avez même fait encore plus parce que vous avez acheté des accessoires. Vous dites, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On est tous en train d'imaginer. Hein? Bon. Mais en tout cas, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va faire un beau paquet cadeau, on va le mettre dans un beau sac, et on va faire un nœud autour, on va s'assurer que la présentation est jolie. Dans quel état sommes-nous? On ne peut pas dire qu'on est indifférent, on dit « ouais, écoute, c'est dans 2 jours, oh, ça va quoi ». Non! Si on y a mis notre cœur, et qu'en plus ça nous a coûté quelque chose, oh, on a hâte. Oh, on a hâte. On pense à sa tête, on se dit « ah, ça va être super », la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai? Alors maintenant, mets-toi dans les chaussures de Dieu. Dieu a des tas de choses pour toi, des choses que tu ne peux même pas imaginer maintenant, tellement elles sont belles. Mais il ne peut pas te les donner maintenant, parce que peut-être qu'émotionnellement, tu ne serais pas capable de gérer ces bénédictions. Elles sont là, elles sont en ton nom, il y a ton nom dessus. Elles sont réservées. Même si un ange les voulait, il dit « non, ne touche pas, ça c'est pour Aline, ça ne touche pas à ça ». Et il a tellement hâte, il bout d'impatience de notre maturité. Mais cette maturité, à moins que nous ne continuions à entendre, et que nous ne continuions à entendre, et que nous ne continuions à entendre, non seulement on risque de voir le voleur dérober les bénédictions que Dieu nous a données, parfois, vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'imposition des mains, et elles reçoivent, elles disent, tiens, prie pour moi parce que j'ai besoin d'être guérie, j'ai mal ici, j'ai mal là, ok, Jésus guérit, viens ici, au nom de Jésus, sois guéri, paf, la puissance de guérison, remets tout en place, clac, clac, la personne est guérie. 4 mois plus tard, la personne revient en disant, tu sais, pasteur, écoute, je ne comprends pas, j'ai encore mal, regarde. Pourquoi? Comment se fait-il? Tu as reçu ta guérison? Tu l'as perdue? Parce que quand tu as reçu ta guérison, tu l'as reçue avec beaucoup de joie. Et oui, la puissance de Dieu est allée en toi. Ce qui veut dire, continue à entendre, et à entendre la parole à ce sujet, et à entendre, parce que si les symptômes cherchaient à revenir, si le diable cherchait à voler cela, eh bien tu serais suffisamment fort pour dire, non, je garde ce qui est à moi, je garde ce que j'ai reçu. Amen. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et nous terminons cette parabole. Qu'a fait le maître? Donc on voit que les invités ont tous présenté des excuses, comme l'a dit un serviteur de Dieu, Bob Yandian. Il l'a dit, les excuses, c'est ce que l'on doit aller chercher. Et les vraies raisons, c'est celles que nous avons à donner. Vous avez remarqué quand il y a des personnes, elles donnent des excuses. Oui, j'ai pas vu. Elles doivent chercher le truc. Chercher la raison. Alors la clé, il faut comprendre le langage évangélique. C'est que quand les gens vous disent peut-être, ça veut dire non. Il y a des tuyaux comme cela, il y a un langage, il y a un patois évangélique. Et ça en fait partie. Mais en tout cas, il est dit, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et il a dit, va en chercher d'autres, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ce qui veut dire que le Seigneur a dit, eh bien, puisque ceux que tu as été chercher pensent en avoir suffisamment, ils ont suffisamment de connaissances, ils ont suffisamment de santé, ils ont suffisamment de ressources matérielles parce qu'ils estiment ne plus avoir besoin de quoi que ce soit. Ce qui me fait dire qu'ils ont vraiment cessé de marcher avec Dieu. Parce que plus on marche avec Dieu, plus nos besoins grandissent. Non pas pour nous, non pas pour nous forcément, mais pour les autres. Parce qu'on cherche à aider plus de personnes. Et à un moment, si on marche avec Dieu, on ne demande plus pour soi. À Dieu, on dit, Seigneur, j'ai besoin pour les autres. C'est cela. La Bible nous dit, alors va chercher ceux qui savent qu'ils ont besoin. Ce qui me fait dire, nous ne devrions jamais arriver au stade où nous disons, Seigneur, je n'ai plus besoin d'entendre ta parole. À partir du moment où nous disons, c'est bon Seigneur, j'ai appris tout ce que je devais apprendre. Je n'ai plus besoin de lire la Bible. Je n'ai plus besoin d'étudier les textes. Je n'ai plus besoin de continuer à entendre et à entendre. Le piège, c'est que quand les gens ont entendu une fois, deux fois, trois fois une même écriture, ils oublient qu'il y a encore 1000 révélations dans cette écriture. C'est comme un oignon que l'on pèle. Tu retires la première peau et la deuxième peau et la deuxième peau et la deuxième peau et... tu en as encore. La parole de Dieu sur un même verset, tu ne pourras jamais épuiser les textes parce que notre Dieu, justement, est grand. Donc, n'arrivons jamais au stade où nous en avons assez d'entendre, même si intellectuellement, nous avons déjà entendu les versets. Eh bien, disons, tu sais quoi, j'ai besoin. Parce que cette parole, elle va me permettre non seulement de continuer à préserver ce que j'ai acquis, de protéger ce que j'ai acquis, mais elle va me permettre de découvrir ce que je n'ai pas encore réalisé ou obtenu. Amen. Alors voilà, je voulais vous laisser avec ces versets-là. Je voulais vous continuer à entendre, à vous assurer qu'écouter la parole de Dieu, continuer à écouter la parole de Dieu reste votre priorité, hein, afin que l'on puisse porter du fruit, que l'on puisse vraiment vivre le plan de Dieu pour nous au point d'être une bénédiction pour les autres.